France Inter, le 18-20.
Une semaine en France avec à nos côtés ce soir une femme qui est écrivaine, académicienne, professeure, normalienne, chroniqueuse, voyageuse, universitaire, traductrice. Comme quoi, en français, le savoir-faire se décline très bien au féminin. D'ailleurs, Danielle Salnave fait partie de la commission de l'Académie française qui vient de déclarer qu'il n'y avait aucun obstacle de principe à la féminisation des noms de métiers et de professions. Une évidence, me direz-vous? Non, une révolution pour cette institution dont on parlera bien sûr avec elle, tout comme on parlera de ses livres, mais aussi de son parcours et de l'actualité de la semaine. À commencer par ce qui s'est passé ces dernières heures en Nouvelle-Zélande avec ce double attentat, vous l'avez entendu, qui a fait près de 50 morts dans des mosquées de Christchurch. Car pour elle, l'identitarisme est la maladie du 21e siècle. Également au sommaire de cette émission, préparée par Irène Menahem et réalisée par Marie-Annick Rimbaud, un reportage de Rémi Brancato sur la fin du grand débat national qui se termine officiellement aujourd'hui. Et puis comme tous les vendredis, les bonnes ondes de Sandrine Houdin. Ce soir, la deuxième vie des poules pondeuses les plus âgées, celles qu'on appelle les poules réformées. L'association Poules pour tous leur offre une deuxième vie plutôt que de finir à la casserole. C'est un reportage à ne rater sous aucun prétexte. À 19h20 au téléphone sonne, retour sur la question de la féminisation des noms de métiers à la veille de la semaine de la langue française et de la francophonie. Nous verrons que les Français ne sont pas forcément en avance dans ce domaine si on les compare aux autres francophones. Alors, que vous soyez auditeur ou auditrice de France Inter, appelez-nous au 01 45 24 7000.
Claire Servagen. Une semaine en France.
Bonsoir Danielle Salnave.
Bonsoir.
Bienvenue sur France Inter, merci d'être avec nous jusqu'à 20h alors que s'ouvre demain le Salon du Livre, que débute demain la semaine de la langue française et de la francophonie. On sait que le français, la littérature, c'est la grande affaire de votre vie. Vous êtes l'auteur de nombreux livres, certains primés, on aura l'occasion d'en parler. Mais peut-être d'abord un mot de votre actualité, si vous le voulez bien Danielle Salnave. L'Académie française vient de se prononcer sur la question de la féminisation des noms de métiers et de professions. Or, vous faites partie de la commission qui a donné son feu vert à cette féminisation. Dites-nous comment les choses se sont faites, qu'est-ce qui a poussé? Ce sont des membres de l'Académie qui ont poussé?
La commission a fait un rapport et a présenté le rapport à la compagnie, ce qui est une bonne manière de procéder. On a travaillé plusieurs mois, 4, et on a consulté des grammairiens, des linguistes. Le service du dictionnaire a travaillé avec nous et on a présenté un rapport qui est en fond, je crois, essentiellement un état des lieux. Et cet état des lieux a été bien accueilli par la compagnie. Il a voté à une écrasante majorité.
La commission dont vous faites partie, elle est paritaire.
Hein, elle est paritaire, bien évidemment.
Oui. Il y a vous, Dominique Bonnat, il y a aussi Gabrielle de Broglie et Sir Michael Edwards, c'est ça
hein? Voilà, c'est ça. Ce sont les quatre. Et le chancelier honoraire Gabrielle de Broglie était le président de la commission.
Ouais. Qu'est-ce qui a fait que ça a poussé comme ça? C'est MeToo qui est passé par là? Ce sont les évolutions de la société?
Je ne crois pas. En ce qui me concerne, je considère que la féminisation du vocabulaire des professions et des fonctions est nécessaire pour rendre les femmes visibles. Est-ce que c'est la vie générale et l'état général de l'Académie à l'égard de cette question? Je ne sais pas. Ce qui est en tout cas son avis général et son état, c'est que, en tant qu'elle est l'observatrice de l'évolution de la langue, ne pas constater ce qui s'y passe serait aberrant. Ce serait vouloir freiner un mouvement comme on essaierait d'arrêter une locomotive en se mettant devant. Ce serait aberrant. Donc l'Académie, à mon avis, n'a peut-être pas opéré sa révolution. Ce qui est vraiment visible, frappant, c'est qu'elle prenne en compte ce qui se passe vraiment dans la langue. De ce fait, d'ailleurs, elle ne préconise pas, elle donne pas des indications, faites plutôt ceci ou cela.
Elle dit il n'y a pas d'obstacle, c'est
elle
ça
dit, voilà, elle dit il n'y a pas d'obstacle, et elle donne l'état des lieux, ce qui fait que pour un mot, il peut y avoir plusieurs féminins possibles. Et que c'est la langue qui se décidera. Quand j'étais enfant, moi, pour une femme médecin, on disait « doctoresse ». Maintenant, on le dit plus. Donc, on peut pas savoir ce que la langue fera. Pour auteur, par exemple, qui me concerne en tant qu'auteur et beaucoup d'autres de mes confrères et consoeurs à l'Académie. Auteur avec un E, auteure, autrice, comme on dit acteur, actrice. On a dit autoresse à un moment, ça prendra pas, ça. Bon. Mais il faut voir qu'il y a plusieurs possibilités. Et même simplement une auteure, sans mettre de E au bout. Il y a au moins quatre possibilités. Voilà.
Je vous signale, Danielle Salnave, que sur le site de l'Académie française, il est encore écrit à votre sujet que vous avez été rédacteur en chef de plusieurs revues.
Ah, ben, bien sûr. Hein? Mais Mais vous savez, moi, étant donné mon grand âge, j'ai traversé
des périodes... N'exagérons rien,
mais soyons réalistes. J'ai traversé des périodes successives. Je n'ai jamais été opposée à la féminisation. Mais parfois, et c'était peut-être mon erreur, je ne la jugeais pas nécessaire. Je me disais, qu'est-ce que ça peut faire ? Le lecteur, il lit mon livre, ou la lectrice. Si je suis un auteur ou une auteure, qu'est-ce que ça change ? L'essentiel, c'est qu'il me lise. Mais ce que je ne mesurais pas assez, c'est qu'il fallait qu'il soit visible que les femmes sont là. Y compris pour les jeunes générations, y compris pour les petites filles et les petits garçons qui entrent à l'école. Qu'est-ce qu'est fait ta maman ? Elle est magistrate, dit la petite fille ou le petit garçon. Ah, dit l'autre, il y a des femmes magistrats. Sinon, on n'y aurait pas pensé. C'est pour ça que c'est indispensable.
Alors,
ça existait déjà, mais l'académie était assez, n'y tenait pas trop. Et moi, je ne voyais pas l'utilité. C'était mon erreur, voilà, je crois.
L'académie était peut-être frileuse, et puis surtout, il y avait des personnages au sein de l'académie qui étaient particulièrement frileux. Moi, je voudrais qu'on écoute un tout petit extrait de Maurice Druon, qui a freiné des cas de fer pendant des années. C'est un extrait d'une émission de Thierry Ardisson en 2006. Oui.
Une femme ambassadeur est un ambassadeur.
Mais si Ségolène devient présidente de la République ?
Non, elle sera présidente de la République. Elle est un président de la République.
Ah, elle ne sera jamais présidente.
Mais ça ne doit pas se faire, c'est contraire à la langue française.
Et voilà, contraire à la langue française, disait Maurice Druon, Daniel Salnave.
Non, je pense qu'il y a un glissement. Il est clair que... Il y a des arguments, et tous les arguments de Maurice Druon ne sont pas absolument tous à rejeter. Mais, en particulier, cette question d'une fonction qui dépasse les individus qu'il incarne. Mais maintenant, il faut que les femmes soient visibles, c'est tout. Alors, chez Maurice Druon, c'est assez paradoxal, parce que quand il a démissionné de sa fonction de secrétaire perpétuel, il était clair qu'il était véritablement en faveur de la candidature de Mme Carrère d'Encausse qui l'a remplacée. Donc il n'était pas à ce point hostile à la présence des femmes. C'est assez paradoxal aussi pour moi parce que j'occupe son fauteuil.
Absolument, puisque vous êtes allé à l'Académie française en 2011 à son fauteuil, vous avez dû faire l'éloge de Maurice Druon.
Oui,
ça n'était pas été trop compliqué.
Oui,
alors ça,
l'éloge de Maurice Druon, tout le monde lui disait, tu ne te souviens donc pas que dans les années 70, tu avais manifesté en portant des masques blancs sur le visage avec tes amis comédiens à cause de la fameuse phrase sur les acteurs et les artistes qui venaient frapper à la porte du ministère, la sébile dans une main et le cocktail Molotov dans l'autre.
Bien. Quand il a été ministre.
Oui, il était ministre de la culture pendant quelques mois. Et alors tout d'un coup, j'ai trouvé l'entrée. Je suis entrée dans la personnalité, dans la vie de Maurice Druon, en lisant dans le premier volume de ses mémoires l'éloge de son instituteur. Maurice Druon était un petit garçon qui a une enfance difficile, c'est un petit garçon non reconnu par son père. Sa mère l'emmène quand elle se marie en Normandie, il prend le nom de son beau-père et il dit « j'ai été tiré d'affaire pour mon instituteur ». Je suis allé lui rendre visite quand il était âgé. Je me suis dit, un homme qui fait l'éloge de son instituteur ne peut pas être tout à fait mauvais.
Pas fondamentalement mauvais. En tout cas, Daniel Salnave, vous êtes la 7e femme, je crois, à avoir intégré cette noble institution qui est restée fermée aux femmes pendant plus de 300 ans. Il a fallu quoi, attendre 1980 pour que Marguerite Yourcenar entre à l'Académie française. C'est un lieu qui nous paraît toujours sorti d'un autre temps. Vos broderies, votre habit vert, vos épées.
Le fait qu'il n'y ait pas de femmes pendant 3 siècles, il faut bien voir que ça ne correspond pas à une volonté propre de l'Académie, c'est l'état général des choses et des lieux. Les femmes n'ont pas le droit de vote, les femmes ne participent pas à la vie publique, etc. Et il n'y a pas de règlement qui dit c'est interdit aux femmes. C'est au point même que, en plein XVIIe siècle, le grand La Bruyère, l'auteur des caractères, au moment où se présente un certain monsieur Dacier, qui est bien oublié, un helléniste, etc., il dit « c'est bien dommage qu'on puisse pas voter pour des femmes, car Madame Dacier, son épouse, est autrement compétente en matière de linguistique grecque, il dit pas linguistique peut-être, mais de langue grecque et de traduction. » Donc c'est pas une hostilité aux femmes, c'est un état des lieux. Mais il est clair qu'en 1980, il était temps qu'on en sorte et que Marguerite Yourcenar, en faisant son entrée, ouvre la porte.
Un petit mot, Daniel Salnave, du dictionnaire de l'Académie française, qui existe en version numérique maintenant, ouais, accessible à tous et à toutes. La 9e édition est prévue pour fin 2020, c'est ça ?
Oui. Oui, alors nous sommes en train de terminer la 9e édition, encore mettons 2 ans, 1 an et demi ou 2, et bien évidemment, est mise en ligne tout ce qui est déjà fait de la 9e édition, mais aussi l'édition précédente, la 8e. Et bientôt, ce qui sera très intéressant pour l'histoire de la langue, toutes les éditions précédentes seront en ligne avec un accès très facile et gratuit. C'est une ressource formidable pour les élèves, les professeurs, les lecteurs, les lectrices, tout le monde. Et je pense que ce sera bien parce qu'on verra l'évolution. On verra que le mot femme, par exemple, a été défini très longtemps dans le dictionnaire de l'Académie comme compagne de l'homme. Ben, pas dans la 9e quand même.
Voilà, et il y aura quoi, 60 000 mots en tout ?
Oui, oui. Alors le propre de du dictionnaire de l'Académie, et avec l'édition numérique ça sera encore plus visible, c'est que nous ne sommes pas limités par l'espace, par le volume lui-même. La Larousse est obligée tous les ans de chasser des mots pour en mettre des nouveaux. Nous, on peut l'accueillir tant qu'on veut. Et ça, c'est merveilleux.
Et on peut mettre à jour autant de fois qu'on le souhaite. On reparlera de toute façon de cette question de la langue, des mots et de la féminisation des noms de métiers. Tout à l'heure, dans le téléphone sonne, Daniel Salnave, et j'invite d'ailleurs tous nos auditeurs et toutes nos auditrices à nous appeler au 01 45 24 7000. Mais on va passer d'abord à l'actualité de la semaine grâce à ce mix qui a été mis en onde par Céline Hilla. À la une cette semaine, un coup de théâtre, lundi en Algérie. Abdelaziz Bouteflika renonce à briguer un cinquième mandat et il fait savoir que la présidentielle est reportée.
On est content, oui, on est content. Mais personnellement, si je peux dire un truc, c'est que je ne crois pas trop à tout ça. Je pense que tout ça, c'est juste une pièce théâtrale politique. On a réclamé le départ de Bouteflika, c'est vrai, et il est parti, mais pas son clan. Donc on n'est pas vraiment satisfait à 100%.
On voulait une élection sans Bouteflika. On se retrouve avec Bouteflika sans élection, disent les manifestants. La France, prudente, réagit.
Je salue la décision du président Bouteflika qui ouvre une nouvelle page dans le développement de la démocratie algérienne.
Et Emmanuel Macron de souhaiter une transition d'une durée raisonnable. En attendant, en Algérie, les manifestations se poursuivent, y compris celles des étudiants dont les vacances ont pourtant été avancées pour freiner la mobilisation sur les campus.
Non, monsieur, faut avancer.
En France aussi, on a des idées pour empêcher la jeunesse de descendre dans la rue. Alors qu'une marche pour le climat était annoncée pour ce vendredi, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a brusquement eu une idée lundi.
Vendredi, c'est un grand jour pour dire l'importance du climat. Et donc, il est normal aussi d'en débattre dans le cadre des lycées. Et donc, on s'est dit que de 16h à 18h, offrir cet espace de débat, c'est vraiment faire avancer les choses. Parce qu'en plus, il y a beaucoup de choses concrètes à dire.
Un débat en fin d'après-midi ? Tiens, tiens ! C'est justement l'heure prévue pour les rassemblements, regrette le président de l'Union nationale lycéenne, Louis Boyard.
C'est dommage de prendre 16h à 18h. Moi, je ne pourrais pas aller au débat.
Jeudi, 4 ONG ont décidé de poursuivre l'État en justice pour inaction en matière climatique. C'est l'affaire du siècle. Et cela alors que, d'après l'ONU, la pollution serait encore plus néfaste qu'on ne le supposait pour l'environnement et la santé. Et si on écoutait de temps en temps ceux qui alertent, c'est vrai aussi pour la question du maintien de l'ordre. On l'a vu lors de la crise des Gilets jaunes avec un nombre insensé de blessés graves. Mais ça ne date pas d'hier, dit le défenseur des droits Jacques Toubon.
Il y a des années que nous disons qu'il y a des problèmes à l'égard du respect des droits fondamentaux dans la manière dont se fait le maintien de l'ordre dans notre pays.
Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, n'a pas apprécié. Alors il a renvoyé Jacques Toubon à son passé de garde des Sceaux.
Ce Toubon, aujourd'hui, mène un combat manifestement plus personnel que collectif, peut-être pour faire oublier son propre engagement politique.
À propos de passé, Bernard Tapie, de retour devant la justice dans l'affaire Adidas Crédit Lyonnais, il est poursuivi pour escroquerie et détournement de fonds publics.
Je voudrais rappeler à vos auditeurs que le Crédit Lyonnais de l'époque, c'était des voyous.
L'avocat de la partie civile que je suis peut dire que Bernard Tapie est un escroc.
Maître Chabert, l'avocat du consortium de réalisation chargé de gérer le passif de la banque, autant dire que le feuilleton continue. Un autre débat qui rappelle des souvenirs, celui de la privatisation d'Aéroports de Paris. Le gouvernement préfère parler de concession, mais il a réussi à se mettre tout le monde à dos, à droite et à gauche, le député LR Daniel Fasquelle.
On a bradé les autoroutes et aujourd'hui tout le monde le regrette.
Tout le monde le regrette, mais le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, ne voit pas où est le problème.
Est-ce que c'est le rôle de l'État de faire des beaux commerciaux pour des boutiques de luxe dans des duty-free?
Un aéroport, c'est quand même autre chose, rappelle le député UDI, Philippe Vigier.
Un aéroport, c'est une frontière. Est-ce que demain, dans le monde que l'on connaît, aussi dangereux qu'il peut être, eh bien, on laissera cette frontière sans que ce soit une autorité d'État qui en garantisse le fonctionnement au quotidien?
Puisqu'on parle de frontières, un joli casse-tête en perspective à quelques jours de la date prévue du Brexit. Les députés britanniques ont rejeté l'accord négocié par Theresa May qui en a perdu sa voix. Je regrette profondément le choix fait par cette assemblée. Il y a des choix qu'il faut assumer. À propos du choix, ceux d'hier ne sont pas toujours ceux d'aujourd'hui.
Quand je suis parti, c'était le moment de partir pour moi.
Aujourd'hui, Zinedine Zidane revient en sauveur au Real de Madrid.
Aujourd'hui, ça fait 9 mois que je suis au repos et j'ai envie de reprendre.
El francés Zinedine Zidane vuelve a ser desde este lunes el entrenador del Real Madrid.
Gracias a vosotros porque también habéis creído desde el principio en nosotros. Gracias a todos.
Et encore merci à Céline Hila, Daniel Salnave avec nous dans une semaine en France. Je ne sais pas ce que vous avez retenu, Daniel Salnave. Peut-être l'Algérie, j'imagine.
Oui, je suis passionnée par tout ce qui se passe, mais je ne veux pas non plus parler à tort et à travers sur tous les sujets. Je sais bien que Sartre disait, l'intellectuel, c'est celui qui parle de ce, au fond, ce qu'il ne devrait pas aborder, des sujets qui ne le concerne. Eh ben, tout nous concerne. Mais il y a des sujets qui me sollicitent encore davantage. Et à travers ces sujets, il y a un sujet qui émerge et qui fait que je trouve l'époque absolument passionnante. Même si on trouve qu'elle n'est pas formidable. Aucune époque n'est formidable. Et toutes sont passionnantes à partir du moment où on se dit qu'on doit s'y engager et y faire le mieux qu'on peut. La question d'Algérie est pour moi une question lancinante et récurrente. Peut-être parce que j'avais 20 ans au moment des accords d'Évian et que pour ma génération, comme on dit aujourd'hui assez facilement, pour ma génération, c'est l'entrée véritablement dans quelque chose qui vous fait échapper à l'enfance, à l'adolescence, à une considération politique, sociale de l'histoire du monde. La guerre d'Algérie, c'est quoi? Pour moi, la fin de la guerre d'Algérie, les grandes manifestations qui ont marqué Paris à ce moment-là, avec des morts parmi les manifestants, y compris parmi les Algériens et parmi les manifestants étudiants, ouvriers qui y participaient, c'est quoi? C'est l'idée qu'on vivait une contradiction. On avait été élevé, et j'y crois toujours, dans les idéaux de la République. Égalité, liberté, fraternité, dans l'ordre que vous voudrez. Et tout d'un coup, on voyait bien que ça s'appliquait pas de l'autre côté de la Méditerranée, ni non plus quand les Algériens des bidonvilles autour de Paris entraient dans le centre de Paris. Ça, c'est une découverte énorme à 20 ans. Elle nous a marqués, elle nous a profondément marqués. Je n'ai pas renoncé à ces idéaux, mais je sais que la France peut être entrée en contradiction avec elle-même et qu'elle peut régulièrement entrer en contradiction avec elle-même. Ces idéaux, pour les rendre vivants, il faut avoir de la mémoire aussi.
En tout cas, la question musulmane est toujours là, Daniel Salnave, plus que jamais, on l'a vu encore tout à l'heure avec ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande, et vous dites que cette question, elle empoisonne le débat politique.
Mais elle est foncièrement inscrite dans notre histoire. Nous avons, à cause de la colonisation, d'ailleurs je rappelle, malgré les erreurs qu'on peut lire de ça de là, que l'Algérie n'était pas une colonie française, l'Algérie c'était des départements français, c'est autre chose. Mais à cause de notre présence coloniale de l'autre côté de la Méditerranée, nous avons une communauté de destin d'une histoire. Alors on me dira, ah mais arrêtez de réveiller tout le temps une culpabilité, à force de pas vouloir la réveiller, on l'oublie. On finit même par vanter les bienfaits et les mérites de la colonisation. Je ne ferai jamais partie de ceux et celles qui les vantent. Je dirais simplement qu'il est arrivé que les colonisés, ou disons les Algériens des départements, ayant appris nos idéaux liberté, fraternité, égalité, les ont retournés contre nous au moment de la guerre d'indépendance, ce qui n'était que justice. Donc nous leur avions enseigné et fourni des armes à travers ça. Pour le reste, ne comptons pas sur moi pour définir quels sont les bienfaits de la colonisation. En soi, c'est un système intrinsèquement mauvais. Passons, je n'irai pas plus loin. Mais le fait qu'Algérie, pour l'instant, bouge, ça pose beaucoup de problèmes. Ça pose la question de ce maintien de dirigeants âgés, malades, voire morts, sous perfusion pour qu'une caste au pouvoir puisse se maintenir. On l'a vu en Espagne, on l'a vu dans d'autres pays. Et ça, c'est une chose qui est intolérable.
Daniel Salnave, on va passer au reportage de la semaine maintenant avec le grand débat national qui se termine officiellement aujourd'hui. C'est, on le sait, Emmanuel Macron qui l'a voulu pour sortir de la crise des Gilets jaunes. On ne sait pas très bien d'ailleurs sur quoi ça va aboutir, est-ce qu'il va y avoir un référendum ou pas. Rémi Brancato est reparti lui à Saint-Briac, c'est près de Saint-Malo, où France Inter s'était rendu pour un des tout premiers débats à la mi-janvier. Là-bas, les habitants se sont pris au jeu, il y a même eu plus de débats que prévu. On repart sur place.
150 à 200 personnes, 2 heures de réunion chaque jeudi à Saint-Briac. Il a fallu trouver une salle plus grande dès le deuxième débat et en organiser 5 en tout pour répondre à la demande.
J'ai maintenant 68 ans, c'est la première fois que je vois ça.
Une bonne surprise donc et des leçons pour les élus comme Alain Rowe, conseiller municipal.
Je n'imaginais pas certaines situations. Le fossé qu'il y a entre les plus démunis et les gens qui n'ont pas besoin de compter, c'était flagrant.
Alors au bar tabac du village, on fait le bilan. Les participants ont réclamé plus de justice fiscale, des moyens pour l'éducation, mais ils ont aussi créé des liens. Chantal de Bureau, retraitée, n'a raté aucun débat.
Après chaque réunion, il y avait la possibilité de rester pour prendre un verre. Ça nous a permis d'aller vers les gens qu'on ne connaissait pas.
Chacun vient, parle, c'est une thérapie de groupe.
Mais pour Pierre-Yves Guillermou, menuisier, gilet jaune, il faut dépasser le simple déballage.
Il faudrait, à mon avis, continuer ce type de réunion, que ce soit mensuel, pourquoi pas passer à des formats plus petits qui fassent de réelles propositions.
Le maire est prêt à organiser un grand débat tous les ans, dit-il, mais attention, pour Roland Bidot, retraité, il y a un bémol.
C'était une joyeuse maison de retraite. Les quadras, voire les quinquas, étaient quasiment absents. C'est une parfaite démonstration de la carence de citoyenneté dans ce pays aujourd'hui.
Alors il propose qu'à l'avenir, chaque participant tente de convaincre un jeune de se déplacer.
Voilà, les jeunes qui manifestent en tout cas pour le climat aujourd'hui. Ce mouvement des Gilets jaunes, demain ce sera l'acte 18, Daniel Salnave, comment vous le percevez ce mouvement ?
Dès le début, j'ai été vraiment absolument passionnée par l'émergence de ce mouvement. Et lorsque je dis ça, on s'empresse aussitôt comme si on voulait, non pas me faire taire, mais aussitôt refroidir une espèce d'enthousiasme en disant « Ah mais tu as bien vu ». Bien évidemment, j'ai vu quelles avaient été les dérives dans des propos racistes, homophobes, antisémites. On en a la collection complète. Mais je ne crois pas qu'on puisse s'en servir pour déconsidérer ce qui a mis en route ce mouvement. C'est extrêmement important. Et qu'on soit actuellement, qu'on ait pu voir depuis des mois, ces débats, j'en ai regardé parfois pendant des heures de suite sur des chaînes d'information continue où on voyait tout à coup, bien évidemment ces questions sont parfois confuses, des petites et des grandes, mais je ne trouve pas qu'elles soient si incohérentes ou irrationnelles qu'on dit. Je pense qu'il y a quelque chose qui les traverse, à mon avis il y a trois choses qui les traversent. Petit un, la demande d'une fiscalité plus juste, mais c'est pas du tout une demande incohérente et qui manque d'intelligence, comme l'a dit je ne sais quel personnage un peu important politique, a dit on a peut-être été trop intelligent pour se faire comprendre, c'est pas une très bonne remarque de dire ça, c'est pas du tout incohérent, réclamer une fiscalité juste, c'est une excellente réclamation. La deuxième, c'est réclamer, disons, quand on parle du pouvoir d'achat, on en parle parfois avec un peu de mépris. Oh, le pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat. Ben oui, c'est le pouvoir d'acheter des choses. Donc de manger, par exemple, de terminer le mois, de donner quelque chose à ses enfants. Et puis la troisième chose, c'est finalement le refus qu'on parle en votre nom. Vouloir parler en son nom de ce qu'on subit ou de ce qu'on voudrait changer. Mais c'est énorme, ça. Si on est un vrai républicain, un vrai démocrate, on ne peut que saluer cela.
Alors, Daniel Salnave, vous n'avez pas eu d'engagement politique au sens partisan du terme. Enfin, vous avez clairement une sensibilité de gauche. Qu'est-ce que vous en pensez de cette gauche-là, vu l'état dans lequel elle se trouve aujourd'hui ?
Bon, là encore, on dit, oui, de toute façon, la gauche, il n'y en a plus, elle est explosée, atomisée, dispersée. Je veux bien ce qu'elle porte, ce qu'elle portait et ce qu'elle devra porter n'a pas disparu pour autant. Par exemple, un débat qui tout le temps m'agace un peu, c'est que il est de bon ton, dans certaines sphères, un peu plus conservatrice peut-être qu'il faudrait, de dire la notion de progrès, c'est une notion très dangereuse, finalement, qu'est-ce que ça nous mène à des systèmes totalitaires, ça nous mène au goulag en gros. Moi, je pense que renoncer à la diète de progrès, c'est pas une bonne idée. Bon, pour moi, progrès, c'est très simple. Mon père me racontant la joie de sa grand-mère quand on a mis le service d'eau dans le village. Et tout d'un coup, au lieu d'aller porter des seaux et d'aller au bout du village et de les rapporter, elle avait l'eau courante dans sa cuisine. C'est énorme, ça.
Absolument, c'est
pas
un détail.
Et ce progrès-là, je veux pas y renoncer. Bien sûr, je veux bien renoncer à des idéologies de progrès qui, à travers cela, nous vendent des systèmes totalitaires. Ça, je suis bien prête, mais je renoncerai jamais à l'idée de progrès.
Ce matin dans la glace, je ne me reconnais pas. Quels sont ces seins qui poussent? Il est un très belle femme, par cette petite secousse, comme une princesse qui tousse. je change de carapace. Il est un très belle femme, anima animus. En moi se cherche le plus, je suis bien plus que as. Le yin est dans le yang est dans le yin. Le yang est dans le yin est dans le yang. Le yin est dans le yang est dans le yin. Le yang est dans le yin est dans le yang. Oh, oh mes femmes, au milieu, sois toi-même. Être unique et précieux, sois toi-même. Oh mes femmes, elle est beau, il est belle. Ce matin dans la glace, je ne me reconnais pas. Quels sont ses poils qui poussent? Elle est un très bel homme par ses petites secousses. Un garagiste qui tousse, je change de carapace. Elle est un très bel homme, anima animus. En moi se cherche de plus, je suis bien plus que us. La yin est dans le yang est dans le yin. La yang est dans le yin est dans le yang. La yin est dans le
Arthur H, choix musical de Djoubaka pour une semaine en France, toujours en compagnie de Daniel Salnave.
France Inter, le 18-20. Claire Servageant.
On va parler maintenant, Daniel Salnave, de vous, de votre parcours. Vous êtes né à Angers en 1940, non pas sous la Troisième République, vous insistez là-dessus, mais sous le régime de Vichy.
Oui, je suis né dans un trou noir de la République. Le mois de ma naissance est un des pires mois, finalement, des débuts de l'occupation, puisque c'est le mois par lequel le nouveau régime promulgue les plus radicales de ses lois concernant les Juifs français, les Français juifs. Et je pense que je ne peux pas l'oublier, évidemment. À l'époque, ça ne m'a pas frappé, mais maintenant, oui.
Vous le notez, évidemment, votre père était prisonnier au moment de votre naissance. Il est resté prisonnier jusqu'en 1945. Vos parents étaient tous les deux instituteurs, enseignants à l'école publique. Très important, ça, c'est loin d'être un détail pour vous.
Je suis très attachée définitivement à l'idée d'école publique. Et je ne le vis pas comme une espèce de militance agressive, mais je le vis calmement comme une nécessité à ce que nous appelons, d'un mot un petit peu facile, mais après tout qui compte, notre vivre ensemble. Pour que nous puissions vivre ensemble, il faut qu'il y ait des espaces où on suspende. Je ne dis pas qu'on rejette les attachements, les identités. Chacun y a droit. Mais il faut qu'il y ait des espaces où, pour pouvoir vivre en commun, il faut laisser à la porte les armes, d'accord? Peut-être aussi les religions, peut-être toutes sortes d'attachements ou de rattachements pour se retrouver ensemble. Surtout lorsqu'il s'agit d'enfants, d'adolescents. C'est indispensable.
En tout cas, c'est un point qui est très important pour vous et on le retrouve dans votre dernier livre, L'Églantine et le Muguet, publié chez Gallimard. Vous êtes revenu sur les traces de votre enfance dans votre ville de Savenir, mais vous avez fait toute la région. Vous insistez beaucoup, effectivement, sur la place de l'école publique, la place de l'école privée dans cette région, comme si c'était encore présent aujourd'hui, cette histoire-là.
Alors, en le décrivant et en revenant là-dessus, je craignais que mes lecteurs ou lectrices me disent « Oui, tout ça, c'était autrefois. » Or, j'étais très surprise. J'ai fait une tournée assez importante, dans cette région de rencontres. Et j'ai rencontré de jeunes instituteurs ou des parents et des gens qui n'avaient pas forcément 60 ans et plus, mais qui en avaient 30 ou 40 et qui me disaient « C'est ce que nous vivons encore. » La question de l'école publique dans cette partie de l'ouest de la France, l'ouest de l'Anjou, est encore l'enjeu d'un véritable combat. qui n'est plus dans les mêmes formes qu'à l'époque, mais qui l'est tout le temps.
Mais vous pensez même que ce combat-là, on le retrouve dans la politique actuelle? Vous faites des références, par exemple, à François Fillon, qui est de Sablé-sur-Sarthe.
Il est clair qu'il appartient à cet univers dans lequel l'école publique continuait d'être plus ou moins l'école du diable. C'était tout de même l'école contre laquelle, non seulement l'Église en tant qu'institution, je ne parle pas de la foi religieuse, je parle de l'Église en tant qu'institution, et les châteaux, pour désigner la propriété foncière tellement importante dans cette région, se liguent contre l'école privée, contre l'école publique, pour installer partout une école privée qui assure, dès l'enfance, surtout pour les filles, une formation qui permettra de transmettre les bonnes valeurs, c'est-à-dire le respect de la morale traditionnelle et de la propriété privée.
Il y a une autre obsession dans ce livre, c'est la guerre de Vendée. Et la Révolution.
Oui.
Pareil, parce que vous pensez que c'est toujours, toujours actuel,
d'abord,
c'est
la mémoire de la guerre de Vendée, et c'est normal, n'est pas entièrement effacée. Moi, je fais partie, de même que pour la guerre d'Algérie, je dis qu'il faut être des républicains conscients à propos de leur côté république coloniale. Il faut que la République garde la mémoire de ce qui s'est accompli pendant la Révolution. Pouvait-elle faire autrement? On en débat beaucoup, les historiens là-dessus se déchirent. Il est clair tout de même que ce qui s'est passé, c'est que un département, la Vendée, et le sud du département où je suis né, le Maine-et-Loire, qui à l'époque venait juste d'être créé comme département, ont été le lieu d'une guerre qui a été réprimée, et d'un soulèvement qui a été réprimé dans le sang. Et si on est un républicain conscient, et surtout, si on pense à ses ancêtres, moi j'ai eu des ancêtres forcément qui étaient vendéens, d'autres qui étaient républicains, je dois y penser.
Alors vous avez grandi, on a dit, à Savenières, dans l'école de votre mère, l'école des filles, à classe unique. Vous avez passé du temps là, même toute petite, assise sur l'estrade, et puis c'est comme ça que finalement vous avez appris à lire sans même qu'on vous apprenne. C'est ça, un beau jour elle s'est dit, on va lui apprendre à lire à la petite, et puis elle s'est rendue compte que vous saviez lire.
La maison était grande, mal chauffée, la pièce la mieux chauffée était la salle de classe, donc j'ai été là bien avant d'entrer encore à l'école, mais j'ai consulté autour de moi des amis qui étaient comme moi enfants d'instituteurs et qui aussi ont appris à lire dans les mêmes conditions. Un enfant apprend parce qu'il entend tout autour de lui ce qui se passe, donc j'ai appris à lire comme ça, j'ai passé quelques années dans la classe de ma mère, je lui dois une immense reconnaissance, mais pas à elle, seulement à travers elle, aux instituteurs ruraux, aux instituteurs en général, et aussi aux institutrices qui, dans le cas de ma mère, devaient se battre contre un contexte social qui n'était pas favorable aux écoles publiques de filles, beaucoup plus défavorable aux écoles publiques de filles qu'aux écoles publiques de garçons.
Alors Daniel Salnave, après vous avez poursuivi vos études au sein d'un, vous le dites, d'un système scolaire réservé aux enfants de privilégiés. La République qui m'a formé est une République élitiste.
Mais oui, elle l'était. Alors évidemment, on me répondra, comment tu peux oublier les grandes valeurs de l'élitisme républicain? Je ne les oublie pas. C'est quoi l'élitisme républicain?
Vous avez fait Cagne, vous, Normal Sup, vous avez passé la Grègue.
Oui, tout. Hein, l'élitisme républicain, c'était quoi? C'était l'idée que l'école allait, en donnant une formation aux enfants du peuple, combattre les héritages qui seraient uniquement les héritages de la naissance et de la fortune. Hélas, aujourd'hui, on a bien du mal à les combattre encore. Je mesure bien que j'étais portée par une certaine chance, le fait d'avoir des parents instituteurs, c'est-à-dire qui faisaient le relais entre les milieux de journaliers, agricoles, d'artisans, qui étaient ceux de ma famille auparavant, et qui, à la génération de mes parents, étaient devenus instituteurs. C'est une étape extraordinairement importante. Donc j'ai cette responsabilité. Puisqu'on m'a donné cette chance, ben, je la transforme en désir et goût de la transmission. C'est naturel pour moi. Mes parents étaient comme ça. C'était des médecins aux pieds nus. Vous savez, ces médecins qui apprenaient la science médicale pour la redonner aussitôt au peuple. C'est ça que faisaient les instituteurs primaires.
Alors vous avez fait de l'enseignement aussi, d'abord en lycée, après à la fac de Nanterre. J'ai quand même noté que vous avez été assistante là-bas en 68. Oui. Globalement, Daniel Salnave, vous l'avez dit, l'ascenseur social a parfaitement fonctionné pour vous. D'ailleurs, vous êtes parti de là-bas, arrivé à l'Académie française.
Il a fonctionné, hein, mais j'ai interrogé l'autre jour une amie d'enfance, née dans le même village que moi, élève de l'école privée, moi de l'école publique. On se retrouve en 6e au lycée. Nous étions deux dans le village au lycée. Concours d'entrée en 6e qui était bien fait. On était en 2. Ce qui veut dire quand même que, évidemment, l'ascenseur social, s'il y avait, l'élitisme républicain, s'il y avait, concernait une minorité. Tout ça, aujourd'hui, se pose dans des conditions totalement différentes. Le malheur, C'est un chiffre qui me perturbe souvent. C'est qu'il y a moins d'enfants aujourd'hui dans les grandes écoles issues des milieux populaires qu'il y en avait en 1970 ou 80. Il y a quand même une grande question là.
Absolument. Puisque vous venez d'un village, Daniel Salnave, je suis sûre que ce qui va suivre va vous intéresser puisqu'on en arrive aux bonnes ondes de Sandrine Houdin. Bonsoir Sandrine.
Bonsoir.
Alors ce soir, vous nous emmenez en Loire-Atlantique pour sauver des poules. C'est pas très loin de chez vous, la Loire-Atlantique, mais enfin, c'est un petit peu plus à l'ouest, Sandrine.
Exactement. On part à la Chapelle-sur-Erne, c'est tout près de Nantes. On va retrouver là-bas un jeune homme. Il a 28 ans, il s'appelle Thomas. Il s'est lancé dans une drôle d'aventure, le sauvetage de poules pondeuses réformées par les éleveurs.
Qu'appelez-vous des poules réformées ?
Il faut savoir que les élevages se débarrassent assez vite de leurs gallinacées. En général, passé un an, elles partent à l'abattoir alors qu'elles peuvent encore pondre. Thomas l'a découvert par hasard il y a 2 ans. Il a donc décidé de les racheter aux éleveurs pour ensuite les revendre aux amateurs comme moi de bonnes mouillettes.
Et ça marche ?
Eh bien, faut croire. Depuis 2017, plus de 15 000 poules ont évité la case zigouille. Je n'ai pas compté les œufs pondus. En tout cas, ça fait beaucoup.
Alors Thomas Dano a monté Poule pour tous, c'est une association à laquelle vous pouvez vous adresser pour récupérer une poule réformée. Vous irez la chercher dans un dépôt près de chez vous, vous pouvez aussi aller directement chez Thomas Dano. C'est ce que vous avez fait, Sandrine Houdin, alors on y va.
Voilà, ma grande. Une poule azur, une poule arco et une poule coucou.
Ouais, mes premières poules. Salut. Elles sont trop belles.
Tac, allez-y, rentrez.
Oh oui, elles sont belles les poules, Lyon.
C'est comme ça, tous les mardis, Thomas n'arrête pas.
Expliquez-moi, qu'est-ce que vous avez ces poules comment, de quelle manière ?
Bah, le principe de Poule pour tous, c'est d'offrir en fait une deuxième vie aux poules, un an de ponte dans l'élevage, et après, abattoir.
Elles savent encore pondre, c'est ça qui est intéressant.
Combien de temps en fait ? Elles vont pondre encore 3-4 ans, suivant ce qu'elles mangent.
Cette drôle d'aventure a commencé il y a 2 ans.
C'est parti sur une attaque de poulailler. Là, un renard est passé chez nous, il nous a massacré notre poulailler. Puis on a trouvé quelqu'un qui vendait des poules de réforme. Et en se renseignant un petit peu sur ce principe d'élevage, on s'est rendu compte qu'en fait toutes les poules étaient destinées à l'abattoir. Et nous on s'est dit ah non c'est trop bête, et dans un élan de générosité, on a affrété un camion complet et on a récupéré 1000 poules. Et le lendemain 1000 œufs, et le surlendemain 1000 œufs, vous faites quoi à part une grosse omelette.
Et c'est là que ça a fait tilt.
Et ben ça a fait tilt au moment où je me suis dit ah c'est une énorme bêtise ce que tu viens de faire, il faut absolument les revendre. Donc je les ai toutes revendues, ça m'a pris 6 semaines. Et je me suis dit si je suis personne mais que je vends 1000 poules en 6 semaines, si je deviens quelqu'un, je le ferai en 3 jours.
Ah je crois que vous avez des clients là.
Ouais. Vous aviez commandé ?
Pas du tout. J'ai un par hasard, j'ai vu les portes ouvertes sur Facebook.
Alors vous arrivez déjà avec le sourire.
Ah bah oui.
Qu'est-ce que vous faites là ?
Mon compagnon mange 2 œufs par jour. Et du coup on s'est dit mais on va investir dans des poules.
C'est hyper bien les poules.
Cocotte ! J'ai un peu peur.
Peur de quoi ?
De leur bec. Cocotte ! Oh, il y a un œuf.
Bon, donc en fait... Non, ça va, ça va. Bon, en fait, ça, là, c'est les séquelles des élevages. Elle s'est fait croquer le croupion. Déjà, dans 2 semaines, elle va être beaucoup plus jolie. Et dans 1 mois, elle ressemblera aux petites rousses qui sont là.
Ok.
Donc c'est pour ça que bah, les poules de sauvetage, elles sont pas hyper canons.
C'est quoi ça comme type de caisse là ?
Ça c'est des caisses de transport spéciales en carton à usage unique. Donc on a suffisamment de trous sur les côtés pour permettre une bonne respiration de l'animal. On peut en mettre jusqu'à 4 et elles sont tout à fait à l'aise.
2 poules pour cette cliente, Sophie elle en a déjà 7.
C'est un gros gâchis d'envoyer toutes ces poules à l'abattoir alors qu'elles pondent encore un œuf par jour.
Il y a vraiment une différence.
Ah ça n'a rien à voir du tout en fait. Déjà la taille de l'œuf, déjà il est 2 fois plus gros. Le jaune déjà il est pas jaune, il est orange. Mais le plus spectaculaire je dirais c'est le blanc. C'est pas comme de l'eau en fait, comme les œufs de supermarché, c'est très gélatineux, c'est hyper consistant. Donc en fait, au lieu de manger 2 ou 3 œufs, on en mange qu'un. C'est que du bonus. J'ai plus de déchets alimentaires, je donne tout à mes poules, tout, elles mangent tout. Je leur ai mis un petit contreplaqué pour pas que le vent y rentre dans le poulailler, pour pas qu'elles aient froid, je leur change leur paille.
Vous pensiez vous attacher à ce poids-là, vos poules ?
Ah non, pas du tout, pas du tout. Alors ça fait beaucoup rire mon mari qui se moque de moi, mais si, je fais attention à leur bien-être et puis elles me le rendent bien, vu qu'elles me font des œufs. Ouais, c'est un peu, on est un peu gaga en fait, hein, quand on a des poules.
Et ça Thomas confirme.
Moi je trouve ça hyper drôle. Quand je vais dans mon poulailler, ça me fait marrer. Il y a une poule qui est sur la mangeoire, il y a une poule qui est en train de taper sur l'autre. Enfin, on dirait une vraie famille. Elles sont en train de se foutre sur la tronche pour un asticot. Et quand je les prends et que je les remets au client, en fait, ce qui me fait encore plus plaisir, c'est de voir le sourire des gens et de se dire ouais, c'est bien, j'ai fait une bonne action, j'ai des poules. Je vais. En fait, ça fait marrer tout le monde.
Prochaine étape, un développement dans toute la France.
Par exemple, à Toulouse, à Marseille, on a énormément de personnes qui nous en demandent. Mais comme on n'a pas de dépôt là-bas, on peut pas livrer. Parce qu'on va pas faire de livraison à domicile, c'est trop cher. On a besoin d'avoir des points relais. Et aujourd'hui, on cherche 10 points relais par département.
Pas très sage là.
Attention, combat de poule. Attention, c'est parti, elle tape.
Mais là, vous avez quel âge là ?
Je sais pas, 10 ans. Hop, elle recommence. C'est vraiment une morue celle-là. La vache. Vous avez vu là ?
C'est juste génial ce reportage, Sandrine Houdin. Je précise le site pour ceux et celles que ça intéresse pour récupérer une poule réformée, poulepourtous.com, Daniel Salnave.
Ce qui m'a enchanté, c'est d'entendre ce doux gloussement des poules dans la journée qui ont
fait
pondu.
Du bien. Hein.
Oui, je passe beaucoup de temps maintenant dans un village, pas toute l'année, sinon je pondrais une poule. Mais dans ces villages, on n'entend plus de poules. Tout le monde va acheter ses œufs au supermarché. Et dans les villages, comme quand j'étais enfant, à Savenières dont vous parlez, on entendait l'après-midi les poules qui allaient en liberté dans le jardin et on entendait cette espèce de petit régulier appel, tantôt assez lent, assez rythmé, qui donnait un sentiment incroyable de paix. Et je crois que c'est merveilleux ce que font ces jeunes gens qui ont relancé cette idée. On pourrait tout à fait, au lieu d'aller acheter des boîtes d'œufs qu'on casse en les mettant dans son chariot, on ferait très bien d'avoir une poule dans son jardin. On aura un œuf magnifique, frais, tous les matins, petit déjeuner. Quelle merveille!
Entièrement d'accord avec vous. Je suis sûre que c'est une idée géniale. Sinon, Daniel Salnave, vous allez toujours dans des collèges pour essayer de convaincre les jeunes de lire.
Je vais y retourner bientôt, d'ailleurs, à l'initiative de Laurent Catac, qui est le maître d'œuvre de la transition de notre dictionnaire vers sa mise en ligne. Et on va s'associer pour véritablement faire que ça devienne une ressource pour des collèges, des élèves, des profs. Voilà.
Lire, c'est
voilà,
très important.
Évidemment.
Et je rappelle le titre de votre dernier livre, paru l'an dernier chez Gallimard, L'Églantine et le muguet, on se promène vraiment dans l'ouest de la France, ça vaut la peine, il y a de l'histoire, il y a de la géographie, il y a tout ça là-dedans. Daniel Salnave, de toute façon, vous restez avec nous, puisqu'après le journal de 19h, on va passer aux travaux pratiques. Au téléphone sonne à propos de la féminisation des noms de métiers et de professions. On sera avec un des meilleurs spécialistes du sujet, le linguiste Bernard Cerchiglini, dont le dernier livre s'intitule « Le ministre est enceinte ».